croire trop facilement ici en Europe que les évangéliques, c'est une espèce de secte américaine, très à droite, comme ça, très liée au monde américain, avec l'argent américain. Il y en a même qui disent que c'est la secte de la CIA. Bon, ça, c'est très caricatural. C'est vrai que l'argent américain, et puis il faut bien dire aussi l'élan missionnaire prosélyte des agences missionnaires protestantes évangéliques américaines, ont beaucoup joué pour lancer le mouvement dans le monde entier. Mais aujourd'hui, le fer de lance des missions prosélytes évangéliques dans le monde, sur les cinq continents, ce sont des Brésiliens, ce sont des Coréens, ce sont des Africains dans les banlieues françaises, par exemple. Ça s'est inculturé, comme on dit, c'est devenu, je dirais, véritablement des spiritualités nationales, ou en tout cas continentales. Et les Américains, finalement, ont de moins en moins de rôle dans ce mouvement. Quand des Brésiliens viennent évangéliser les petites villes anglaises en dansant la samba, en demandant aux pauvres Anglais « Connais-tu Jésus-Christ ?» Les pauvres Anglais qui n'en reviennent pas, eh bien, c'est tout à fait le nouveau cours, le nouvel élan de ces missions latino-américaines qui viennent évangéliser l'Europe.
Cependant, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse considérer l'Église évangélique comme le type même d'une religion mondialisée pouvant s'affranchir de certaines spécificités culturelles ?
Ne nous hâtons pas de dire que l'évangélisme, c'est une annexe religieuse de la mondialisation. On peut, à mon avis, voir la chose à l'envers et dire que si le protestantisme évangélique s'est répandu en masse dans le monde et s'il continue de se répandre, c'est parce que, en effet, la mondialisation lui permet de le faire, mais je ne crois pas qu'il soit un produit de la mondialisation. Je crois que l'élan profond d'une religion, il est à chercher dans le religieux, pas dans l'économique ni dans le politique. Et nous avons vraiment affaire là à un phénomène de prosélytisme religieux et de foi religieuse.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une différence de compréhension entre évangélique et catholique concernant ce qu'on pourrait appeler une théologie de la mission ?
Il est certain que dans beaucoup de cas, beaucoup d'églises évangéliques, spécialement celles qui sont plus américaines que les autres, fonce un peu sans nuance. Ils ont quelquefois des méthodes expéditives, de baptiser les enfants sans en parler à leurs parents, etc. Il est certain qu'il y a une certaine critique que l'Église catholique porte envers certaines mouvances évangéliques quant à leurs méthodes, mais pas toutes les mouvances évangéliques. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier, parce que l'évangélisme, c'est un monde extrêmement contradictoire où il y a un peu tout et le contraire de tout.
Dans votre livre, vous posez la question « Les évangéliques sont-ils dangereux ?» Alors, sur quel présupposé pourrait se fonder cette possible dangerosité ? Et finalement, qu'en est-il en réalité ?
Alors, la dangerosité, c'est compliqué à dire parce que ça dépend entièrement du point de vue. Il y a des gens qui vous diront qu'ils sont dangereux sur le plan intellectuel parce qu'ils sont créationnistes. Ils affirment que le monde a vraiment été créé en 7 jours montre en main par Dieu, et que c'était il y a 6000 ans, et que les espèces n'ont jamais évolué, et que le dinosaure a été contemporain de l'homme préhistorique, comme disait la malheureuse Sarah Palin, qui était un assez beau prototype d'évangélique pas très éclairé. Et alors ça, évidemment, c'est une divagation, et c'est très dommage qu'ils compromettent la Bible dans cette divagation qui n'est pas biblique. Seulement, est-ce que c'est un danger ? Qui le créationnisme, ce créationnisme-là, je veux dire, est-il capable d'influencer ? En Europe occidentale, visiblement, personne.
Pouvez-vous nous détailler les aspects d'une possible dangerosité de certains mouvements évangéliques, notamment sur le plan politique ?
Parmi les néo-pentecôtistes les plus militants, il y en a qui sont très politisés et ils poussent leurs fidèles à imaginer la politique comme le combat des forces du bien contre les forces du mal, et à considérer que le camp politique d'en face est démoniaque, et qu'il faut l'exorciser. Ce genre de délire ne peut influencer que des gens illuminés, un peu marginaux. Je ne crois pas qu'ils puissent présenter la moindre menace pour quoi que ce soit, et entre autres pas pour la laïcité. En revanche, dans des pays plus pauvres, et même très pauvres, où les gens sont un peu désespérés, un peu poussés à des comportements irrationnels parce que la faim, parce que la maladie, etc., on l'a vu dans certains pays d'Afrique, ce genre de délire un peu illuminé peut alimenter des guérillas, des phénomènes de violence, des phénomènes de gourous, de chefs militaires gourous, comme par exemple ce général Nkunda qui animait la rébellion Tutsi dans l'est du Congo-Kinshasa, et qui était en même temps pasteur évangélique et qui prêchait Bible dans une main et fusil dans l'autre. Mais de toute évidence, ce sont des choses qui ne peuvent pas exister dans des pays riches et stables et laïcs et séculiers comme par exemple la France.
On a affaire à un phénomène complexe, variant suivant les pays, aux doctrines et aux positions parfois discordantes. Alors, au vu de ce caractère composite, voyez-vous dans ce mouvement le vecteur du renouveau futur du christianisme ?
Je ne peux pas dire ça parce que c'est une question qui est trop ample et qui est trop grande. Ce que je pense, c'est que l'ardeur missionnaire des évangéliques peut jouer et joue d'ailleurs un rôle de réveil, littéralement de réveil matin sur les catholiques qui ont tendance à la fois à la somnolence et au pessimisme. Le jour où les paroisses françaises seraient revitalisées, redeviendraient des foyers, des creusets de solidarité, auraient des activités sociales où les gens se parleraient, se soutiendraient, seraient aussi chaleureux entre eux qu'on l'est dans les églises évangéliques où on est accueilli avec une très grande chaleur humaine. Le jour où les paroisses catholiques auraient cette chaleur-là, mais en même temps l'irriguerait par la foi dans l'Eucharistie, dans la présence réelle eucharistique, ce jour-là, ce qui est le cœur même du catholicisme, ressuscite, et c'est donc en revitalisant ce qui est son originalité propre, qui est la paroisse et l'Eucharistie, que le catholicisme ne se laissera plus, presque distancer, ou même regarder de haut, dans certains cas, ou même avec certaines compassions, par les militants évangéliques et par les pasteurs évangéliques qui nous disent « nous avançons partout et vous, les catholiques français, vous êtes dans le désert ». Il ne tient qu'à nous de revitaliser ce qui est notre trésor et qui est véritablement notre avenir.